Voilà, je veux donc lire avec vous un texte pour la prédication de la parole dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est un tout petit livre de 4 chapitres. Donc c'est un livre qui se lit d'une traite, hein. On ne va pas lire les 4 chapitres. Mais si vous avez l'occasion d'ici dimanche prochain, faites-le, lisez-le entièrement. Ça prend que quelques minutes, hein. Et je vais lire avec vous le chapitre 1 en entier, le chapitre 1 du livre de Ruth. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge et Ruth. Alors si on tourne trop vite la Bible, on risque de le rater parce qu'il n'y a que peut-être deux feuilles. Hein. Dans ma Bible, il n'y a que deux feuilles pour Ruth, donc si on tourne vite, on le rate. Voilà, je vais attendre que tout le monde ait trouvé le livre de Ruth. Donc je vais lire Ruth à partir du chapitre 1, à partir du verset 1. Nous lisons donc la parole de Dieu. Il dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malcon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclan et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et se mit en route pour séjourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton père. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Et nous te prions afin que par ton esprit, tu nous y conduises toi-même. Aide-nous, nous te demandons, et parle à nos cœurs à travers ta parole et par ton Saint-Esprit. Amen. Voilà, je pourrais intituler cette méditation « Partir n'est pas toujours la solution ». Partir n'est pas toujours la solution. Donc ce livre de Ruth, c'est une histoire qui se déroule, le texte le dit dès le premier verset, au temps des juges. Et c'est s'étend sur une période de 10 à peu près 12 ans. Et le gros de l'histoire, on pourrait dire, se déroule entre avril et juin, à l'époque de la moisson. Et en Israël, les rabbins lisent souvent ce texte à la Pentecôte. Elle concerne Ruth, cette histoire, une Moabite qui est venue s'installer à Bethléem. Et c'est une très belle histoire. Quand on lit, c'est vraiment, on pourrait faire un film avec cette histoire. Il y a beaucoup de rebondissements. Il y a une certaine douleur quand même qui est contenue dans ce livre. Il y a en même temps une fraîcheur, il y a de l'espérance. Et donc c'est un livre, une histoire très très intéressante. On trouve des thèmes comme la mort, la vie, le mariage, le veuvage, l'enfantement. Tous ces thèmes s'entrecroisent un peu dans ce livre-là. Mais le thème dominant est celui du rachat, de la rédemption. Et on n'a pas lu, il faudrait lire le reste pour le voir. Le rachat par un proche parent. Et donc Ruth, quand vous lisez la Bible, est dans la lignée de Jésus-Christ. Hein. Et donc vous pouvez lire ça dans Ruth chapitre 4 verset 17. Et puis dans Matthieu, dans la généalogie de Matthieu, vous trouvez aussi son nom, Matthieu chapitre 1. Donc il y a des thèmes, on pourrait dire des thèmes théologiques aussi qui traversent ce récit. La grâce de Dieu envers les païens, l'accès des femmes à la grâce de Dieu, le thème du rachat, la foi, la providence de Dieu, l'immigration, c'est un thème, et l'intégration aussi de l'étranger. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont contenues dans ce livre. Mais pour ce matin, je voudrais juste rester sur les cinq premiers versets de ce premier chapitre, et donc intitulé, comme j'ai dit, le message par ce titre, « Partir n'est pas toujours la solution », ou l'exil, si vous voulez, n'est pas toujours la solution. En quelques versets, les cinq premiers versets de ce passage, on est plongé dans une histoire, je trouve, dramatique d'une famille de Bethléem. Donc on veut voir premièrement, et ce que l'on voit, c'est que la famille ici décide de quitter, de partir. Ils partent en exil, ils quittent Bethléem pour se diriger à Moab. Et parfois, je pense que nous avons déjà vécu des situations où nous avons envie de partir. On pense que la seule chose à faire, c'est de partir. Rien ne va plus, il n'y a pas de boulot. L'église, je sais pas, ça se passe pas bien. On a des conflits les uns entre les autres. Et peut-être que la seule chose à faire, c'est de partir. Refaire un peu sa vie ailleurs où personne ne nous connaît. Et voilà, où on va être un peu incognito et puis avoir un nouveau départ. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Mais le texte nous montre quand même que l'exil ou partir, ça n'est pas toujours la solution. Donc on veut voir premièrement quelles sont les circonstances qui ont poussé cette famille, Elimelech et Naomi et leurs deux enfants à partir. Donc regardez ici déjà le verset 1 nous dit « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays ». Donc il y a plusieurs circonstances que l'on peut voir ici. Donc il y a une circonstance économique qui est liée à une famine, mais on veut voir d'abord qu'il y a certainement une situation spirituelle désastreuse dans ce pays. On est au temps des juges. Alors si vous avez lu le livre des juges, Vous savez que c'est une époque assez particulière de l'histoire d'Israël. Le livre des Juges s'ouvre avec cette constatation. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva auprès d'elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Juges chapitre 2, verset 10. Pardon. Donc ici, l'époque des Juges, c'est une époque où il est dit qu'il y a une génération qui a poussé, une génération qui ne connaissait pas du tout Dieu, ni ce que Dieu avait fait. Donc vous pouvez imaginer un petit peu comment cette génération a dû se comporter. Il dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Donc un peuple qui sombre dans l'idolâtrie, un peuple qui ne connaît pas Dieu. Et le livre des Juges est marqué par ce cycle. Vous allez trouver souvent cette expression, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc c'est un peu ce qui caractérise l'époque des juges. Et il y a beaucoup de choses dramatiques qui sont rapportées de cette époque. On trouve des scènes de monstruosité, on trouve de l'idolâtrie, on trouve du meurtre, on trouve du viol collectif, on trouve des meurtres macabres, on trouve du kidnapping de jeunes femmes. Tout cela, vous pouvez lire dans le livre des Juges. Ça vous donne l'atmosphère, les circonstances spirituelles qu'il y avait à l'époque du livre des Juges. Et le livre des Juges se termine avec cette expression. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà quelles étaient les circonstances spirituelles. Donc on peut imaginer l'état d'un cœur, du peuple, l'état d'un pays même, quand chacun fait tout ce qu'il veut. Et en regardant autour de nous, de notre société, qui rejette Dieu, dans cette génération qui s'est levée, dans laquelle nous sommes, et qui ne connaît pas Dieu, je crois que ce n'est pas difficile d'imaginer le désastre qui a dû exister à cette époque-là. Chez nous, dépravation, meurtre, infanticide, viol, mensonge, fraude, idolâtrie, débordement dans les cœurs. Il y a tout cela, il n'y a qu'à tourner le bouton de la radio pour être un petit peu immergé par toutes ces choses-là. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, disait Osée, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence et on commet meurtre sur meurtre. C'est Osée qui disait cela et il dit que tout cela, ça arrive parce qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Vous voyez, il s'éleva une génération qui ne connaissait pas Dieu. Donc c'est toute l'atmosphère dans laquelle vivent ces personnes, les membres de cette famille. Et donc, l'urgence pour nous, ce n'est pas de laisser, comme on entend souvent, une planète propre à notre génération future, mais c'est de laisser une connaissance de Dieu à la génération qui vient. Donc une situation, on pourrait dire, spirituelle, difficile pour cette désastreuse, même pour cette famille. Deuxièmement, il y a une situation familiale, douloureuse aussi, comme circonstance. La Bible nous dit ici que les deux fils s'appelaient l'un Maclon et l'autre Kiljon. Et Maclon, ça veut dire malade. Et Kiljon, ça veut dire languissant. Donc voilà ce que veut dire les deux noms qu'ont choisi les parents pour leurs enfants. Et on sait à l'époque combien était important le nom que l'on choisissait pour un enfant. Et donc pas très réjouissant, n'est-ce pas, comme nom, et surtout pour Naomi, dont le nom, la mère dont le nom signifie beauté et douceur, et puis pour Élimélec, dont le nom signifie mon Dieu est roi. Donc voilà le nom des parents, et puis ils choisissent pour leurs enfants Maclon et Kiljon, nom qui veut dire malade et languissant. Alors, est-ce qu'ils étaient chétifs? Est-ce qu'ils avaient un certain handicap physique? On ne sait pas. Mais probablement, ils ont choisi ce nom-là pour une raison particulière. En tout cas, les noms laissent supposer qu'il y avait peut-être même familialement des difficultés de santé pour ces deux garçons. Et on sait comment la santé des enfants peut affecter le moral, le physique et parfois le spirituel aussi des parents. Donc Élimélec et Naomi vivent une situation familiale qui est certainement douloureuse. Et puis, enfin, une situation économique qui est terrible, qui est ravageuse. La Bible dit qu'il y avait une famine dans le pays dans Bethléem. Alors, on pourrait se poser la question, dans quel pays est-ce qu'il y a cette famine? Est-ce que c'est dans le pays des ennemis? Il se trouve ici que c'est dans le pays promis qu'il y a cette famine. Si vous lisez Exode, on ne va pas chercher, mais Exode chapitre 3, verset 8, il est dit que l'Éternel envoyait le peuple dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Et telle était la promesse de Dieu pour ce pays. Mais on doit se rappeler que cette promesse était liée aussi à ce qu'on appelle des clauses suspensives. Il y avait des conditions à remplir pour que cette promesse, ce pays où coule le lait et le miel, puisse remplir pleinement sa fonction. Et donc, c'était la fidélité du peuple et l'obéissance du peuple. Lévitique 26, verset 16, vous pouvez dire ça, ou dans le Deutéronome, chapitre 28, il y a « Si tu obéis à l'Éternel, à la voix de l'Éternel, voici, il y a toute une suite de bénédictions. » Et puis il y a « Mais si tu n'obéis pas, il y a toute une suite de malédictions. » Et parmi elles, la famine, le fait que la semence aurait été dévorée par les animaux, faisait partie de la malédiction qui reposerait sur le peuple en cas de désobéissance. Et donc on peut dire que cette famine-là, qu'il y a dans ce pays, cette circonstance, cette situation économique ravageuse, était certainement liée à la désobéissance du peuple. Et donc, était un châtiment de Dieu contre la désobéissance du peuple. Notre péché rend parfois inefficaces les promesses de Dieu à notre égard. Et Bethléem, ça veut dire la maison du pain. C'est terrible d'avoir une famine dans la maison du pain. C'est presque contradictoire. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et lorsque il y a la désobéissance, eh bien Dieu peut changer même une bénédiction en malédiction. La Bible dit, il dit qu'il change, dans le psaume 107, par exemple, versets 33 et 34, il est dit, il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Il change le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Et donc Dieu peut parfois utiliser cela pour secouer un peu le cœur de ses enfants. Et on voudrait attribuer au naturel ce qui arrive, tout ce qui arrive de nos jours. On parle de catastrophes naturelles parfois. Mais on oublie souvent que Dieu peut agir et que ça peut être la main de Dieu qui agit pour, comme châtiment pour nous réveiller et pour nous ramener à lui. La Bible dit... Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dans Amos, c'est la Bible qui dit cela. Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc nous oublions que Dieu contrôle toutes choses. Si vous lisez le livre de Agé, par exemple, l'Éternel dit, voilà, vous aviez pensé mettre beaucoup de côté. Il dit, j'ai soufflé dessus. Il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays. Et certainement, à cette époque aussi, le peuple disait, oh, quelles conditions climatiques difficiles. C'est naturel, catastrophe naturelle. Dieu dit, non, ce n'est pas une catastrophe naturelle. J'ai appelé la sécheresse. Et ici, on voit que Dieu appelle probablement la famine pour parler au cœur du peuple. Toute chose, dit la Bible, le servent. Et il a sa main sur toute chose. Il dit, moi, je vous ai envoyé la famine, Amos chapitre 4, verset 6. Dans vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Vous voyez, moi, dit Dieu, je vous ai envoyé la famine, j'ai envoyé le manque de pain, et malgré cela, vous n'êtes pas revenu. Donc c'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, disait Job, et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Donc cette condition économique difficile était très certainement liée, je ne dis pas à la désobéissance de cette famille-là, forcément, mais à la désobéissance du peuple, et cette famille en a été victime aussi. Donc, que va-t-elle faire au sein de ces circonstances difficiles? Donc, premièrement, on a vu les circonstances de l'exil. Deuxièmement, j'aimerais voir ici le choix que fait cette famille. Cette famille va choisir de partir. Partir ou ne pas partir. Voilà parfois le débat qui peut s'installer dans la pensée lorsque les circonstances sont difficiles. Et la Bible dit, regardez au verset 1, on relit, il y eut du temps des juges une famine dans le pays, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa famille, sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. La famine était un jugement collectif sur l'ensemble, tout le peuple. Mais en même temps que c'est un jugement collectif, c'est une mise à l'épreuve individuelle du croyant. Le jugement était tombé sur tous ceux qui vivaient pour Dieu et ceux qui ne vivaient pas pour lui, mais au sein même des circonstances difficiles que vit cette famille, bien, il y avait une épreuve individuelle, famille par famille, et notamment pour ce responsable de famille. Donc le choix se présente devant Élimélec, partir, fuir la famine, ou rester à Bethléem et souffrir. Mais souffrir jusqu'à quand? Jusqu'où? C'était certainement toute la question. Et Élimélec fait le choix de partir. Et les situations difficiles, les crises poussent toujours les hommes à quitter leur pays pour aller vers d'autres. On parle, peut-être ici vous n'êtes pas atteint par ça, mais plus dans le nord, on parle à Calais, on parle de migrants qui arrivent partout en Europe. Et on comprend que des gens ont faim, des gens fuient les situations difficiles. Et c'est quelque chose de naturel pour l'homme d'aller là où il y a un peu plus de calme, de repos, de possibilité d'avoir de quoi se nourrir. On ne peut pas reprocher à ceux qui ont faim de se déplacer là où il y a de la nourriture. On pourrait dire, donc, quoi donc de plus naturel pour Élimélec de prendre toute sa famille, sa femme et ses deux enfants, et de les conduire là où il y a une terre un peu plus fertile? N'est-ce pas agir de manière raisonnable? N'est-ce pas du bon sens pour un chef de famille? Et c'est ce que qui tente parfois beaucoup. Mais ce que la Bible nous apprend ici, c'est que ce qui est naturel, c'est-à-dire consiste à fuir la difficulté, n'est pas forcément ou n'est pas en général spirituel. Le naturel n'est pas forcément spirituel. C'est quelque chose de naturel de partir et de quitter. Abraham l'a fait. La Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Son fils Isaac l'a fait. Il dit qu'il y eut une famine dans le pays, et outre la première famine qui était du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec. Donc c'est quelque chose qui est quelque part naturel. Mais la question que l'on veut se poser ici, c'est est-ce que, quand même lorsque quelque chose est naturel, est-ce qu'on doit forcément céder à ce qui est naturel? Pas toujours, parce que ce qui est naturel n'est pas toujours spirituel. On peut quitter l'église, parfois le lieu où le Seigneur nous a placés, sous prétexte que les circonstances ne sont pas favorables et qu'elles ne me servent pas. Et l'enfant de Dieu ne peut pas et n'a pas le droit de considérer les choses seulement sous l'angle des circonstances et de ce qui est favorable ou de ce qui lui est favorable ou pas. Il doit exercer, la Bible dit, le discernement. On doit exercer le discernement. Il doit examiner toute chose et retenir ce qui est bon, disait l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Et puis aux Philippiens, il disait, « Ce que je demande pour vous dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » On doit apprendre à discerner au sein même des difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos églises, dans notre ville, dans notre pays. Et il est souvent déconcertant de voir avec quelle légèreté, parfois, l'enfant de Dieu prend des décisions. Et prend la décision, parfois, de partir sur un coup de tête. Et quelle proie les circonstances représentent dans sa prise de décision. On s'attache davantage aux circonstances pour prendre une décision, plutôt que de chercher auprès du Seigneur le discernement. On n'a rien du raisonnement d'Élimélec. On ne sait pas ce qu'il a. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il a mouliné dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a pesé? Qu'est-ce qu'il a mis dans les pots? Qu'est-ce qu'il a mis dans la balance pour pouvoir prendre sa décision? La Bible se tait là-dessus. Hein? Elle nous montre simplement qu'il est parti. Donc, on ne sait que sa décision finale. Mais on comprend en lisant que c'était probablement pas la décision qu'il fallait prendre. Et l'attitude qui convient souvent, c'est celle de David. Dans 2 Samuel chapitre 21 verset 1, ne cherchez pas, je vous lis ce que David dit. Il dit, ce que la parole de Dieu nous dit, il dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Et David chercha la face de l'Éternel. Voilà quelle est la bonne attitude dans les situations difficiles. Famine, situation économique difficile, situation politique difficile, situation même spirituelle difficile, situation ecclésiale en tant qu'église difficile, c'est de rechercher la face de l'Éternel. Chercher la face de l'Éternel dans les circonstances difficiles, c'est ce qui convient à tous les chrétiens. Et on voit que la difficulté ne dure pas toujours. Et même la famine a une fin. Ici, la famine a duré 3 ans. Et dans le cas de Ruth, elle a duré quelques temps. Et après, eh bien, on a lu hein, à partir du verset 6 que Dieu a visité son peuple et qu'il leur a apporté du pain. Donc la famine n'a pas toujours duré. Donc il est important pour l'enfant de Dieu de discerner sa volonté et de chercher sa face. Notez que la Bible dit que Élimélec est parti pour séjourner un petit peu dans le pays. Regardez ici. Hein. Au verset 1, toujours, il dit qu'il est parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Mais après, un peu plus loin, on voit qu'ils ont fixé leur demeure. Hein, au verset 3, je crois déjà, hein, plutôt au verset 2, il dit le nom de cet homme était Élimélec. Il parle de sa femme, Naomi, ses 2 fils. Et puis, à la fin du verset, il dit « Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. » Partis pour séjourner, ils se sont finalement installés. Et on voit que ça a duré au moins 10 ans. Parce que si vous regardez le verset 4, à la fin du verset 4, il est dit « Ils habitèrent là environ 10 ans. » C'est plus qu'un séjour. Hein? En France, on vous donne des titres de séjour pour 3 mois, 1 an, etc. Mais 10 ans, c'est déjà la grande carte. Le grand titre de séjour, c'est déjà fixer un peu sa demeure. Donc parfois, on part avec une intention. L'intention initiale n'était pas de rester à Moab, c'était juste de séjourner un temps et puis revenir rapidement. Et là, on voit que ça s'est transformé et que le provisoire, parfois, devient quelque chose qui dure. On a un provisoire qui dure. Et on peut agir comme cela aussi vis-à-vis, parfois, de l'Église. On connaît des gens qui disent, bon, moi, je vais prendre un peu de recul. Je vais, allez, juste un petit séjour à l'extérieur, le temps de me refaire un peu la pensée, les idées. Et puis, finalement, on s'installe dans le monde, et puis ça dure. Et puis, on finit par y rester des années. Et donc, il faut être très, très vigilant sur cette attitude qui consiste à vouloir toujours fuir ou toujours quitter. On veut couper les ponts provisoirement, mais cela dure bien souvent des années. Et puis, vous notez où est-ce qu'ils vont s'installer aussi, c'est dans le pays de Moab. Si vous vous souvenez, Moab, c'est un peuple qui est issu de l'inceste entre Lot et sa fille. Vous pouvez trouver l'histoire dans Genèse, chapitre 19 et au verset 37. Et le peuple, c'était un peuple qui était ennemi d'Israël, Moab. Et donc, c'était un peuple idolâtre qui pratiquait les sacrifices humains. Leur dieu s'appelait Kemosh et c'était le dieu de la fertilité. Et la Bible dit dans Jérémie, par exemple, que Moab a été à l'aise dès sa jeunesse, tranquille sur sa lie. Il n'a pas été versé de vase en vase. Il n'est pas allé en captivité. Et donc, on pourrait dire que Moab, c'est le pays de la facilité. Voilà, c'est facile, ça semble naturel d'aller vers là-bas. Et notre nature a horreur des difficultés. On n'aime pas souffrir, on a du mal à apprendre, et parce qu'on a du mal souvent à souffrir. Il n'y a pas d'apprentissage, on le sait bien, sans souffrance. On ne peut pas jouer le piano du jour au lendemain, il faut souffrir, il faut travailler, il faut faire des exercices. On ne peut pas retenir des choses sans souffrir, sans apprendre. Je sais que dans nos de notre époque, on veut nous faire apprendre en jouant ou de manière, voilà, à pas souffrir. Mais tout apprentissage nécessite une souffrance. Même le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et donc, il y a une souffrance qui est attachée à l'apprentissage, même des choses spirituelles. Il y en a tendance à vouloir partir dans le pays de Moab. Mais seulement on oublie que se tourner vers Moab, c'est se détourner du pays de la promesse. Lorsque la famille part vers Moab, elle donne le dos à Bethléem, qui est le pays de la promesse. Donc quand on cherche les ressources naturelles, les ressources humaines, les ressources culturelles, eh bien, je donne souvent le dos à ce que le Seigneur a pourvu et a mis à notre disposition. Nous ne pouvons pas prendre des choix, chers frères et sœurs, sous le seul critère de ce qui est raisonnable, ou tout le monde le fait. Parfois, on dit, tout le monde, vous allez acheter quelque chose sur Internet, puis vous avez déjà vu cela, vous achetez, c'est pas n'importe quel produit. Puis on vous dit, les gens qui ont choisi ce produit ont choisi aussi celui-ci. Ou bien tout le monde choisit cela. Et puis vous êtes un petit peu amené à faire un peu comme tout le monde fait. Comment l'enfant de Dieu ne peut pas faire comme tout le monde fait? Tout le monde le dit. Enfin, quelqu'un dit un mot qui n'est pas très bien, une expression qui n'est pas très bien. Oh, ça c'est pas très bien en tant que chrétien. Ah, tout le monde dit cela. Mais on ne peut pas agir comme tout le monde fait. C'est pas ce qui est naturel qui doit nous guider, c'est ce qui est spirituel qui doit nous guider. Le premier réflexe de l'enfant de Dieu, c'est de consulter Dieu. Ce que n'a pas fait probablement, en tout cas la Bible ne nous le dit pas, cette famille. Et dans, je vais vous lire ce passage dans Ésaïe chapitre 30. Je vous lis rapidement Ésaïe chapitre 30. Nous lisons ceci. Il dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font alliance sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Vous voyez, on dit parfois que Dieu c'est notre Dieu, que le Seigneur est notre guide. On a bien méditer tout à l'heure sur cela. Et puis, on peut le chanter même, comme on l'a fait aujourd'hui, le dimanche matin, puis le lundi, déjà, on prend nos décisions sans même prier, sans même consulter Dieu. Et Dieu dit qu'il y a une malédiction qui repose sur son enfant, qui prend sa décision sans le consulter, qui va vite chercher ce que la société nous propose, ce que le gouvernement propose, la mairie propose, avant de savoir ce que Dieu a pour nous. Et c'est ce que nous voyons qui a été la constitution du choix de cette famille. Elle a choisi de partir. Elle n'a pas consulté Dieu avant de le faire. Donc, on a vu les circonstances qui ont poussé cette famille à partir. On voit le choix de cette famille qui était de partir. Mais on veut voir, pour terminer, les conséquences de cet exil, les conséquences de ce départ. Et on voit que c'est extrêmement douloureux. Elle a payé très cher ce départ. Donc, première conséquence, ici on voit qu'il y a une conséquence pour Élimélec lui-même. La Bible dit Élimélec, mari de Naomi, mourut. C'est assez paradoxal. Avec un seul mot, toute l'histoire est résumée. La mort. La Bible dit, voilà une famille, il y a une famine. Une famille part de Moab pour arriver jusqu'à de Bethléem pour arriver jusqu'à Moab. Et puis on nous dit qu'il s'installe et l'histoire se conclut en disant l'homme il meurt. C'est tout. Vous écrivez tout, vous tirez un trait, vous mettez égal et vous mettez mort à côté. C'est un petit peu comme cela que l'histoire est présentée. Et c'est douloureux comme fin, quoi. Et ça nous montre qu'on ne s'éloigne pas impunément de Dieu. Élimélec fuit la famine, c'est quand même, et il trouve la mort. Il part à cause de la famine et il trouve la mort. Et plus tard, on voit que Naomi, elle revient dans le pays où il y avait la famine, et les gens, en tout cas pas tous, ils sont pas morts parce qu'elle est reconnue quand elle revient
Donc c'est qu'il y avait des gens qui étaient déjà là avant qu'elle parte. Donc ils, malgré la famine, ils ont été protégés par Dieu. Comme on le voit, Dieu, la Bible dit que Dieu peut nous garder au sein même de la famine. Et pour Élimélec, par contre, eh bien ça s'est soldé par la mort. Le lieu même qu'Élimélec a estimé être un lieu favorable à la vie pour lui est devenu un lieu de mort. Élimélec a trouvé à Moab ce qu'il fuyait à Bethléem. Quand il est parti de Bethléem, c'est pour avoir la nourriture, n'est-ce pas, pour manger. Et ce qu'il fuyait, c'était la mort. Mais il arrive là-bas et il rencontre la mort. On ne peut pas fuir la mort. Si Dieu a décidé que, voilà, hein, aujourd'hui c'est notre jour, eh bien, on peut faire ce qu'on veut, on peut monter sur la lune, on mourra. Hein. Et on raconte, c'est un frère qui a raconté cette histoire il y a quelque temps, il disait c'est un homme qui voulait fuir la mort, il va voir un sage, et puis donc, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais écoute, il faut que tu fuis loin, tu prends un billet, tu vas dans une autre ville, très, 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 très loin. Et puis, ben, c'est ce qu'il fait. Hein. Et puis, il fuit, il arrive dans ce pays, et puis, ben, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre la mort, et la mort lui dit, mais je suis assez étonné, parce que je t'ai rencontré dans la ville où tu étais il y a quelque temps avant, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, sachant que je devais te rencontrer ici aujourd'hui, hein. D'accord, donc c'est une manière de dire, voilà, on pense en fuyant quelque part que on va échapper à une circonstance, voilà, mais si la circonstance doit nous attraper, elle nous attrape, hein. Et donc ce qui est mieux, ce n'est pas la fuite, c'est de dire, Seigneur, donne-moi la capacité de vivre. Si le Seigneur veut que je parte, je partirai. S'il me dit pars, parfois Dieu dit pars. Hein. Il dit pars, fuis. Et on doit obéir. Mais des fois, il dit, même si la difficulté est là, reste. Parce que si tu dois mourir, tu mourras ici ou là-bas. Donc vous voyez ici, Élimélec fuit ce qu'il va trouver plus tard dans le pays de Moab. Une conséquence pour lui, une conséquence aussi pour les autres. Il dit ici que ses enfants prirent des femmes moabites. Il y a une conséquence donc sur le comportement de ses fils. Il a exposé ses fils au pays de l'idolâtrie. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils épousent des femmes moabites. Leur exposition à l'idolâtrie, leur éloignement du peuple de Dieu les prédispose à de mauvais choix. Ça ne veut pas dire que Naomi est... Et Élimélec ont fait exprès, mais le fait d'amener leurs enfants là, eh bien, ça a aidé à ce qu'ils prennent de telles décisions. Il était interdit aux enfants d'Israël d'épouser une Moabite. Vous pouvez lire ça dans la Bible, Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 3, et dans Esdras chapitre 9, versets 1 à 2, dans Néhémie chapitre 13. Et on peut lire l'interdiction que connaissaient aussi des Moabites. Dans Deutéronome 23:3, il dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Voilà donc ce qui était la loi de l'Éternel. Mais il est important ici de voir qu'en tant que parent, il faut être vigilant sur ce à quoi nous exposons nos enfants. Ils ne l'ont pas fait volontairement, mais ils ont bien malgré eux exposé leurs enfants au pays de Moab. Et cela a entraîné des alliances qui étaient contraires à ce que Dieu voulait pour eux. Donc en tant que parent, il faut être vigilant sur le message que nous donnons à nos enfants à travers les choix que nous faisons. C'est extrêmement important ici. Nous pensons, ne faut pas penser qu'à nous, à notre bien-être financier, intellectuel ou affectif. Pensons à ceux que Dieu a placés sous notre responsabilité, nos enfants. Quel message est-ce que nous leur donnons? À quel choix douloureux nous les exposons pour plus tard? Nous sommes, quelque part, nous les plaçons dans des circonstances où ils vont devoir faire des choix. Et ils peuvent faire de mauvais choix. Ils seront responsables de leurs mauvais choix. Mais peut-être que nous les y aurions aidés quelque part. Et donc on doit être vigilant à tout faire pour que nos enfants fassent les meilleurs choix possibles. En tout cas, dans le domaine spirituel, les exposer vraiment à la parole de Dieu, aux choses de la parole de Dieu, à nous-mêmes prendre des choix en leur montrant que nous consultons Dieu pour qu'ils puissent voir à quel point ces choses sont importantes pour nous. Vous vous rappelez de l'histoire de Lot, dans Genèse chapitre 19, lorsque les anges sont venus chez lui et puis ils lui ont dit, voilà, il faut fuir, etc. Et Lot va trouver ses gendres et puis il leur dit, vite, 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 il faut fuir parce que Dieu va frapper le pays. La Bible dit, Lot sortit, il parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, Lot parut plaisanter. Il dit, tu plaisantes. C'est toi qui nous as installés ici, tu es venu là, tu t'es installé, tu es un responsable de la ville, maintenant tu dis qu'il faut partir, etc. Et dit, c'était pour eux de la plaisanterie. Parfois, sa parole n'était plus crédible à ce moment-là. C'est important pour nous de faire attention. Nos choix peuvent avoir des conséquences sur nos enfants. Et puis il est dit aussi que Maclon et Kiljon, donc non seulement ils ont épousé des femmes moabites, mais eux aussi ils sont tous deux morts. C'est une triste situation. On ne connaît pas la cause de leur décès, d'accord, mais on sait qu'ils sont morts sans pouvoir enfanter de fils. Et puis la Bible termine, le verset termine, verset 5, il dit, ici Naomi resta ainsi privée de ses deux fils et de son mari. Et c'est un comble pour une femme qui est partie chercher l'abondance de se trouver privée de tout ce qu'elle avait de plus cher. On a lu dans le chapitre 1, elle a dit, je suis partie avec les mains pleines et je reviens à sec, je reviens à vide. C'est ce qu'elle dit dans le chapitre 1. Elle est dans la privation, dans la tristesse et dans l'amertume. Une malédiction, on le voit ici, repose sur ceux qui ne regardent pas au Seigneur. Malheur à ceux, dit Isaïe, qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui ne regardent pas au sein d'Israël et qui ne cherchent pas l'Éternel. Je voudrais juste conclure en disant ceci, que le diable souvent cherche par tous les moyens à s'opposer au plan de Dieu. Il empêche souvent, coûte que coûte, ça, il veut empêcher coûte que coûte la réalisation du plan de Dieu dans la vie de ses enfants. Il n'a pas baissé les bras et il semble parfois se retirer, mais ne nous laissons pas duper, ce n'est que pour un moment, pour attendre un moment favorable. Donc on doit refuser dans notre vie toute décision que nous pouvons prendre sans vraiment consulter Dieu. On doit rester attaché aux choses d'en haut. On ne doit pas laisser les circonstances que nous vivons ici infléchir notre cœur. On ne doit pas regarder à ce qui nous manque pour prendre nos décisions. On doit vraiment avoir constamment les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Il prendra soin de nous. On voit avec l'histoire de cette famille que partir n'est pas toujours la solution. Partir n'est pas toujours la solution. Alors peut-être, je ne sais pas comment sont nos cœurs, mais on a peut-être vécu des situations comme cela où on veut quitter parce que voilà, rien ne va plus. La première chose que nous devrions faire, c'est vraiment nous placer devant le Seigneur et puis lui demander, que veux-tu que je fasse? Aide-moi à prendre la bonne décision. Peut-être qu'il faut partir, parfois. Mais que ce soit le Seigneur qui nous le montre, vraiment. Mais la plupart du temps, moi ce que je crois, la plupart du temps, Dieu nous demande de rester. Même quand le troupeau est très petit, même quand c'est difficile. Parce qu'il peut faire beaucoup au sein de très peu. Parce que même avec des circonstances difficiles, Dieu peut garder ses enfants. Naomi va l'expérimenter. Elle retrouve un peuple que Dieu a préservé, même au sein de la famine. Et Dieu peut nous préserver, même au sein des circonstances difficiles, économiques difficiles, même au sein du chômage, même au sein de cataclysmes. Dieu, il est grand, notre Dieu, il est grand et il peut nous garder. Donc ne nous laissons pas influencer par le monde, prendre les décisions comme le monde prend les décisions, mais que le Seigneur nous aide vraiment à savoir que eh bien, nous devons nous confier constamment en lui, qu'il est capable de nous préserver même au sein des plus grandes difficultés. Et cela glorifie Dieu lorsqu'au sein de nos difficultés, nous recherchons sa face. C'est ainsi que l'enfant de Dieu doit réagir. N'oublions pas que le diable cherche à nous faire sortir de Bethléem, de notre Bethléem spirituel, si vous voulez, en faisant miroiter devant nos yeux les facilités de Moab. Mais l'enfant de Dieu doit apprendre à résister à cela. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce à agir d'une manière qui soit digne de notre Dieu, de sa grandeur, qu'il nous aide à lui faire confiance en toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais jours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Notre Dieu, nous te remercions encore pour cet exemple de la vie d'Élimélec. Nous ne voulons pas du tout jeter la pierre à cette famille et parce que nous avons déjà fait pire. Mais tu nous laisses ta parole et tu nous dis que tout ce qui est arrivé à tous ceux qui nous ont précédés est là pour nous servir d'exemple aussi, pour nous montrer comment nous devons nous conduire, et nous te prions que tu nous préserves de prise de décision qui ne soit pas conforme à ta volonté. Notre Dieu, merci encore pour ta grâce, même sur cette famille, sur Naomi, nous le voyons après dans la suite de ce livre. Et merci pour ta grâce envers nous, parce que toi, tu demeures fidèle, même lorsque nous sommes infidèles, parce que tu ne peux te renier toi-même. Mais donne-nous de nous appuyer sur toi, de te faire confiance dans toutes les circonstances de notre vie, de ne pas prendre des décisions par nous-mêmes, de ne pas laisser les circonstances seulement guider nos décisions. Mais comme ta parole nous le commande, que nous consultions le Saint d'Israël et que nous ne nous précipitions pas pour fuir la difficulté, mais que nous te recherchions même au sein des difficultés que nous pouvons connaître. Aide-nous, garde-nous, nous t'en prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.